Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour la rentrée de cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Philippe et Erika, dont c'est la première. Bonsoir à vous deux.
Et bonsoir à tout le monde, content de vous retrouver.
Bonsoir.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous allons accueillir Bernadette, Véronique et Paul, qui représentent le collectif SOS Migrants. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par l'éditorial. Philippe, tu vas nous parler du Myanmar, ce malheureux pays oublié par la communauté internationale.
Depuis le coup d'état militaire de février 2021, la junte a enfoncé le pays dans une catastrophe, tant sur le plan humanitaire que sur celui des droits humains. Confronté à l'opposition de la population et de groupes armés favorables à la démocratie, l'armée fait face à une véritable guerre civile et peine à garder le contrôle du pays. La prise de la ville de Lashio, de 170 000 habitants le 3 août dans le nord de l'État Shan, près de la frontière chinoise, par l'un des groupes armés ethniques en guerre contre la junte, a marqué une nouvelle étape dans l'affaiblissement du régime. Il faut savoir que le Myanmar compte 135 ethnies.
Mais l'armée s'attaque délibérément aux civils.
En effet, elle s'appuie de plus en plus sur sa puissance aérienne pour mener des frappes qui constituent des crimes de guerre. Selon le Myanmar Institute for Peace and Security, l'armée a effectué 104 frappes en 2021, 243 en 2022, et en juin 2024, le rapporteur spécial des Nations Unies a indiqué que ces attaques contre des cibles civiles avaient quintuplé au cours du seul premier semestre cette année.
Mais la répression ne s'arrête pas là.
Ces attaques récentes s'ajoutent à une liste croissante de détentions arbitraires, des actes de torture et de nombreuses autres violations visant des civils. L'armée a également continué à utiliser des armes à sous-munitions produites sur place. Ces armes sont interdites en vertu d'une convention de 2008, signée quand même par 123 pays, mais pas par le Myanmar. Selon l'association d'aide aux prisonniers politiques, au moins 24 000 manifestants qui s'opposaient au coup d'État ont été arrêtés, 4 000 ont été tués, mais l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo estime que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.
Mais que devient Aung San Suu Kyi ?
L'ancienne dirigeante civile birmane a bénéficié d'une grâce partielle de la part de la junte. Sa peine de 33 ans de prison a été réduite de 6 ans. Mais la grâce ne porte que sur 5 des 19 condamnations pour lesquelles elle est emprisonnée depuis le coup d'État. Aung San Suu Kyi reste extrêmement populaire en Birmanie, même si son image internationale a été ternie par son accord de partage du pouvoir avec les généraux et par son incapacité à défendre la minorité persécutée des Rohingyas.
Alors, quelle est la situation de ce peuple en 2024 ?
Plus de 600 000 continuent de vivre dans des conditions d'apartheid au Myanmar. Ils sont confrontés à la persécution et à des emprisonnements. Parmi la population Rohingya, environ 140 000 personnes sont confinées depuis 2012 dans des camps dans l'état de Rakhine et n'ont pas le droit de rentrer chez elles. Les autorités du Bangladesh, qui ont recueilli 750 000 réfugiés et la junte birmane, ont pris des mesures en vue d'un prétendu processus pilote de rapatriement, qui en fait a été marqué par la coercition et la tromperie. Tout au long de l'année, les conditions d'un retour sûr, durable et dans la dignité des Rohingyas n'ont pas été réunies.
Et quelle a été l'action d'Amnesty International ?
Elle a enquêté sur ces crimes de guerre et a publié le 3 novembre 2022 Deadly Cargo, Cargaison Mortelle, un rapport sur la chaîne d'approvisionnement en carburant d'aviation qui relie des entreprises nationales, régionales et internationales à l'armée birmane. En janvier 2024, Amnesty a dénoncé les nouvelles tactiques d'évitement employées tout au long de l'année 2023. Elle a fait la démonstration à la fois de l'impunité avec laquelle l'armée opère et de la complicité totale de certains États, notamment le Vietnam, la Chine et Singapour.
Alors comment réagit la communauté internationale ?
Le 1er février 2023, le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions ciblées contre des entreprises et des particuliers. Le 20 février 2024, l'Union européenne a sanctionné le groupe Asia Sun qui gère l'importation et la distribution du carburant d'aviation pour le compte de l'armée. En avril 2024, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution appelant les États membres de l'ONU à s'abstenir d'exporter, de vendre ou de faire faire parvenir du kérosène au Myanmar. À la CPI, le procureur poursuit son enquête sur les crimes contre l'humanité que son bureau avait engagé suite à la campagne de nettoyage ethnique de 2017. Donc, face à l'horreur, agissez avec nous pour secouer l'indifférence générale.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Bernadette, Véronique et Paul, représentants de SOS Migrants. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre collectif ?
Eh bien, c'est un collectif qui existe depuis 10 ans, exactement. Nous nous sommes retrouvés pour accompagner des personnes qui étaient à la rue, qui étaient devant l'abri de nuit du 115. Dans un premier temps, nous venions les accompagner, voir comment ça se passait. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'elles n'avaient pas toujours dîné. On a apporté de la nourriture. On s'est aperçus aussi que certains n'avaient pas de place. Et à ce moment-là, ça nous a interrogés les premières fois où on a vu une famille repartir avec des enfants. Et on s'est dit, on peut pas laisser ça comme ça. Donc, on s'est dit, on va pouvoir les accueillir chez les uns, chez les autres. C'est ce qu'on a fait.
C'était il y a 10 ans et ça dure toujours.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à organiser un réseau qui permet effectivement d'accueillir des migrants qui sont à la rue ?
Dans un premier temps, nous avions des équipes qui se sont constituées au fil du temps et tous les soirs, il y avait une équipe différente devant l'abri de nuit et au chemin de traverse. Et donc, ces équipes-là, qui voyaient des personnes à la rue, prenaient en charge ces personnes, en prenaient certaines, et les emmenaient chez eux. Ça se faisait en direct, le soir même, devant l'abri de nuit. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et donc, là, on a été interdit d'amener de la nourriture devant l'abri de nuit. Et on n'avait plus de contact avec ces personnes. Donc, il a fallu trouver une autre méthode pour arriver à les aider à trouver un logement le soir et à trouver de la nourriture.
D'accord.
Vous pouvez nous rappeler combien il y a de places à l'hébergement de nuit à Angers ?
Alors, à l'hébergement de nuit, il y a 60 places, dont une partie pour les familles et l'autre partie pour les hommes seuls. Mais il y a beaucoup d'autres familles qui sont logées par les services de la préfecture dans des hôtels sur Angers. À ces 60 places s'ajoutent plus de 250 places.
D'accord. Et vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le système des jokers ? Parce que j'ai vu sur le site, effectivement, que c'est quand même un élément essentiel de votre réseau.
Oui, les jokers, c'est même ce qui nous permet de continuer à fonctionner, puisque c'est eux qui accueillent les familles pour un soir ou pour un week-end, suivant leur disponibilité. On a réussi à créer une liste de jokers qui sont disponibles le soir ou...
Durant le week-end peut-être ?
Oui, ou sur le week-end.
D'accord.
Qui nous font part de leur disponibilité et de leur possibilité aussi de recevoir une famille de 2 personnes, 3 personnes, 1 personne. Et nous, en fonction des familles dont on nous parle qui sont à la rue, on essaye de trouver un joker qui correspond au mieux à la famille à recevoir.
D'accord. Ce n'est pas un accueil permanent, c'est plutôt ponctuel. Il y a des personnes qui vous signalent qu'elles sont disponibles tel ou tel jour, c'est ça ?
Ah oui, c'est complètement ponctuel. Voilà, il y a certaines personnes qui nous disent « moi je peux tous les mardis ou tous les mercredis ». Il y en a d'autres qui nous donnent des dates « je pourrais à cette date-ci, à cette date-là ». Quelquefois, il y en a qui accueillent quand même plusieurs soirs de suite, mais les familles retournent dans la journée. Elles viennent simplement pour dormir le soir, sauf le week-end. Où là, les familles peuvent recevoir quelqu'un pendant la journée aussi également.
Vous appeliez ça un répit, c'est un joli mot.
Oui. Ouais. Oui.
Et quelle est la situation actuelle sur Angers ? Est-ce que après 10 ans effectivement de travail sur ce terrain, est-ce que vous pouvez observer une évolution positive, des progrès ou au contraire un recul ?
Il y a eu un progrès dans la prise en charge par l'État, indéniable. Ça ne fait pas face à l'afflux des gens qui arrivent, mais il y a eu un progrès. Pour notre part, pour vous donner un exemple, depuis le début de l'année, nous avons assuré 2060 nuitées.
Ah oui.
Quand j'entends une nuitée, c'est-à-dire une personne dans un lit. parfois la même à plusieurs reprises, mais ouais. 2060 nuitées. Et tout ça avec, depuis le début janvier, 67 familles accueillantes. Certaines, comme le disait Bernadette tout à l'heure, accueillant épisodiquement, puis d'autres plus fréquemment.
D'accord. Et vous arrivez quand même à héberger tout le monde lorsque les personnes sont à la rue ?
Non, on fait face à un nombre de familles de demandeurs trop important par rapport à nos possibilités. On a parfois des grandes familles pour lesquelles on a du mal à trouver un hébergement. On demande des fois aux familles de se scinder en deux. Là, aujourd'hui, il y a une famille qui reste dehors parce que c'est une maman et 8 enfants. Et on n'a pas la possibilité pour loger autant de personnes à la fois.
D'accord.
Mais vous accompagnez les jokers. Je veux dire, ils viennent chercher les personnes, mais y a toujours un lien avec vous.
Oui, oui. Bon, c'est un lien par téléphone. Hein. On travaille beaucoup par téléphone et SMS, voilà. Mais les familles sont accompagnées, oui, bien sûr. Hein. On leur demande d'abord si elles peuvent recevoir, si ça correspond à ce qu'elles ont comme capacité d'accueil. Et après, elles peuvent nous appeler. On s'envoie un petit SMS le soir, surtout quand c'est les premières fois. Hein. Un petit SMS le soir pour savoir si les familles sont bien arrivées, si tout se passe bien. Le lendemain matin, même chose. Et souvent, on se rappelle pour donner les impressions, dire ce qui s'est passé. Et oui, il y a un lien assez fort hein, entre nous et les familles.
Alors, j'ai eu la chance d'aller à la fête pour les 10 ans des SOS Migrants. Et ce qui m'a touchée, c'est il y avait des jokers qui étaient là et des anciennes personnes qui étaient à la rue et il y avait plein d'amour en fait. Il y avait un vrai engagement d'humanité et beaucoup d'amour partagé. C'était un très très beau moment.
Ah oui, c'était un vrai bonheur enfin pour notre part. On est jokers aussi de temps en temps hein, les uns et les autres et ça a été un vrai bonheur de retrouver hier une personne qui habite maintenant à Niort et qui est venue, qui a fait le déplacement pour venir nous retrouver. Moi, je l'avais pas vue depuis plusieurs années. Hein. Et c'est vrai que on garde des petits liens, on s'envoie des SMS de temps en temps. Mais...
Donc, si on résume, vous avez besoin de jokers, un petit peu d'argent aussi peut-être.
Oui, on a besoin de jokers parce que je pense qu'on peut lancer un cri d'alarme dans ce mois de septembre. Parce que précisément, là, on atteint des difficultés énormes. Hein. Depuis le début septembre, donc ça fait pas longtemps, on a été saisi pour 348 personnes signalées. Et nous avons pu héberger 218 personnes. Donc sont restées à la rue 130 personnes, dont 52 enfants. C'est énorme, ça ne nous était jamais arrivé.
C'est pas par nuit, c'est en cumulé.
Oui, c'est le cumul. C'est le cumul. Quand je dis nuitée, c'est une personne dans un lit. Parfois, la même personne, c'est trois nuitées, la même personne. Hein, on compte en nuitées, c'est plus simple. Voilà. Donc là, on lance un cri d'alarme parce que ça devient problématique. On ne peut plus réellement faire face. Donc, on a besoin de nouveaux jokers pour nous aider. Certes, c'est à l'État de faire ce travail. C'est l'État qui est responsable au niveau de l'hébergement. Nous, on pallie à des manques et à l'urgence, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans la journée et qui ne trouvent pas de solution, qui arrivent sur Angers.
Oui. Il y a des assos qui vous aident ?
Alors, on est aidé, nous, par des... les gens nous sont signalés par des travailleurs sociaux. Donc, comme on n'est plus devant l'asile de nuit... Ce sont des travailleurs sociaux. Or, c'est des gens qui sont là en journée. Et donc, c'est essentiellement des familles avec enfants, des femmes enceintes et des mineurs non reconnus mineurs, puisqu'on est en lien avec un collectif.
Et autrement, est-ce que vous vous attendez également à un durcissement de la législation ?
On peut le craindre, hein, vu ce qui vient de se passer, vu qui est ministre de l'Intérieur et les propos qu'il avait tenus déjà au Sénat, on peut le craindre.
D'accord.
Et pour être joker, il y a des critères particuliers, par exemple, est-ce qu'il faut absolument habiter dans l'agglomération angevine ou même Angers même ?
Non. Enfin, voilà, c'est bien de pouvoir habiter à Angers, de pas être trop loin. Hein. Mais il y a des jokers qui habitent plus loin et qui, soit qui se déplacent pour venir chercher, soit il y a des bus qui vont, il y en a qui vont en bus jusqu'à Villevêque, jusqu'à Soucelles, voilà. Et pour le week-end, au contraire, ça peut être loin, hein, ça a un répit de quelques jours à la campagne, ça fait du bien.
Et on peut vous contacter où ?
Alors, pour nous contacter, il faut aller obligatoirement, c'est le plus simple vraiment, sur notre plateforme SOS Migrants avec un S, un migrant, 49.org. SOS Migrants 49.org. Là, vous avez en haut à gauche un lien qui vous permet de vous signaler. Ensuite, évidemment, c'est un premier contact par mail. Et ensuite, il y a des contacts, soit avec Bernadette, Véronique, Martine ou Dominique. Voilà.
En tout cas, bravo pour votre action exemplaire.
Merci. Oui, merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, vous venez d'écouter la Java des bombes atomiques de Boris Vian, ça date de 1955. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. C'est bientôt l'heure des actualités, mais avant nous allons découvrir la chronique de rentrée de l'antenne jeune angevine d'Amnesty.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous, Amnesty International, voulons attirer votre attention sur la situation alarmante des droits des femmes et des jeunes filles en Afghanistan. Un sujet qui nous préoccupe profondément depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. En effet, depuis que les talibans ont repris le contrôle du pays, nous avons constaté une série de violations graves des droits humains. Et ce sont les femmes et les jeunes filles qui en subissent les conséquences les plus dramatiques. L'une des mesures les plus répressives est l'interdiction faite aux filles de recevoir une éducation au-delà de la sixième année. Cette décision prive des millions de jeunes filles de leur droit fondamental à l'éducation et les condamne à un avenir d'exclusion. Nous avons également observé des restrictions strictes sur la liberté de mouvement de ces femmes. Dans de nombreuses régions, elles ne peuvent plus sortir de chez elles sans être accompagnées d'un homme de leur famille. Cela les empêche non seulement de participer à la vie publique, mais aussi d'accéder à des services essentiels comme les soins de santé. En tant qu'organisation engagée dans la défense des droits humains, nous avons documenté de nombreux cas d'arrestations arbitraires et de violences physiques contre des femmes qui osent protester pacifiquement contre ces mesures. Les militantes des droits des femmes risquent souvent leur vie pour dénoncer ces injustices. Certaines sont arrêtées, d'autres disparaissent sans laisser de traces. Nous assistons à une répression qui vise à faire taire toutes celles qui défendent leurs droits. Nous sommes également très préoccupés par les restrictions imposées aux femmes dans le monde du travail. L'interdiction de travailler dans de nombreux secteurs, y compris dans les ONG et les organisations internationales, aggrave la crise humanitaire en privant des milliers de familles de revenus essentiels. Nous, Amnesty International, appelons la communauté internationale à agir de toute urgence pour protéger les droits de ces femmes et de ces jeunes filles en Afghanistan. Il est impératif de maintenir la pression diplomatique sur les autorités talibanes et de soutenir celles qui continuent à lutter pour leurs droits. Nous devons être solidaires et faire entendre la voix de celles qui sont réduites au silence. Merci beaucoup pour votre attention.
Et c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Le samedi 21 septembre après-midi à Angers se sont retrouvées place du ralliement trois manifestations. D'abord celle des Ukrainiens angevins pour rappeler que la guerre sévit toujours dans leur pays. Puis il y a eu leur rassemblement hebdomadaire pour le cessez-le-feu à Gaza, mené par la FPS qui ne lâche rien. Enfin, nous ont rejoint les membres du mouvement de la paix, parti du Jardin du Mail, le 21 septembre. C'est la journée internationale de la paix. Bien triste journée à Angers ce samedi.
Le mercredi 18 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exigeant qu'Israël mette fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés dans un délai de 12 mois. Cette résolution indique clairement que l'occupation des territoires palestiniens depuis 57 ans, en violation flagrante du droit international, ne peut plus continuer. La résolution a été adoptée par 124 votes pour, dont la France, 43 abstentions et 14 voix contre, dont celle des États-Unis et d'Israël.
Depuis plus de 10 ans, le Venezuela est en proie à une crise profonde. Le pays, frappé par la répression et la crise humanitaire, a vu fuir plus d'un quart de sa population à l'étranger. C'est dans ce contexte complexe que s'est tenue l'élection présidentielle le 28 juillet dernier, élection entachée par la répression politique et les irrégularités. L'annonce de la victoire de Nicolas Maduro a immédiatement été contestée par l'opposition politique. Des manifestations massives ont éclaté dans tout le pays et ont été très violemment réprimées. En quelques jours à peine, plus de 2000 personnes arrêtées arbitrairement et des dizaines de personnes tuées. Depuis, de nombreux gouvernements à travers le monde ont soutenu les appels de l'opposition et invité le gouvernement à la transparence et au respect de la volonté exprimée par le peuple.
Plus de 300 personnes tuées et des milliers d'autres blessés, plus de 9000 arrestations. C'est le tragique bilan de la répression des manifestations étudiantes qui ont éclaté au Bangladesh depuis le 1er juillet. Pourtant, ces étudiants de l'université de Dhaka, munis de pancartes et de drapeaux, manifestaient pacifiquement pour réclamer des réformes concernant l'attribution de quotas pour les emplois publics au Bangladesh. La première ministre a depuis démissionné et fui le pays. Et
pour continuer ces actualités, avec une note d'espoir, passons aux bonnes nouvelles. Depuis le début de l'année 2024, nous comptons déjà une dizaine de libérations dans le monde auxquelles les membres d'Amnesty ont contribué.
C'est le cas de Julian Assange, dont l'affaire a eu un retentissement considérable à l'international. Après avoir passé 5 ans dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni, le fondateur de Wikileaks a enfin conclu un accord avec les autorités américaines et a été libéré le 26 juin. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue d'obtenir et de divulguer des informations relevant de la défense nationale et il a alors été puni d'une peine de 62 mois d'incarcération, peine qu'il avait déjà purgée. Il est donc ressorti libre et a pu enfin revenir en Australie.
Citons également deux autres libérations individuelles avec tout d'abord le défenseur des droits humains Daouda Diallo qui a été remis en liberté en mars au Burkina Faso et également le militant Bahaï Abdullah Al-Holofi qui a été libéré après avoir passé plus d'un an en détention arbitraire au Yémen.
Et souvenez-vous de Vanessa Mendoza-Cortez, la militante pour le droit à l'avortement en Andorre. Elle était jugée parce qu'elle avait dénoncé l'interdiction totale de l'avortement dans la principauté. Eh bien, elle a finalement été acquittée en janvier, après une mobilisation massive de nos militants et militantes à travers le monde. Allez, encore une petite dernière bonne nouvelle, Philippe.
Bien sûr, depuis le début de l'année, plusieurs pays ont adopté un projet de loi visant à assurer l'égalité devant le mariage pour les personnes LGBTI. En février, la Grèce légalisait le mariage pour les personnes du même sexe et permettait à des personnes d'adopter. En juin, la Thaïlande est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour les couples LGBTI.
Et c'est le moment de la chronique de Céline, si chère à notre cœur et si chère à SOS Migrants.
Bonsoir Valérie. C'est la rentrée, et c'est la rentrée des chroniques, et c'est une rentrée triste. SOS Migrants a fêté officiellement ses 10 ans dimanche dernier. Tous et toutes étaient là. Joker, famille hébergée. Il y avait des photos, il y avait les chroniques, il y avait les artistes qui nous accompagnent, qui font le chemin avec nous depuis si longtemps. Titi Robin, Denis Péan, Claire Bossé. Et les souvenirs chaleureux. Drôle aussi. Drôle des accueils, de la percussion des modes de vie. Drôle des rencontres. Et pourtant, 10 ans. Qui croyait en cette longévité si symbolique de l'indignité de l'hébergement d'urgence? Qui croyait qu'on serait encore là, il y a 10 ans, à Rouchy, au 115, quand nous avons commencé? Dimanche, la joie d'être ensemble n'a pas échappé à sa teinte de tristesse. Parce qu'aussi, Valérie, depuis quelques jours, nous avons arrêté d'héberger. La situation ces dernières semaines a été bien terrible. 25 à 27 personnes allogées chaque soir, sans trouver de la place pour tous et toutes. Une dizaine d'enfants à chaque fois. Encore une fois, une dizaine d'enfants à la rue. Il y a des raisons factuelles à cela. Moins de possibilités pour les jokers. Difficulté de trouver de la place pour les grandes familles de 6 ou de 8 qu'il faut séparer pour une nuit. Mais comment faire avec cette maman et ses 8 enfants? Comment trouver un vrai refuge pour ce petit garçon de 4 ans qui ne parle plus depuis 3 ans, qui ne veut pas raconter ce que c'est que d'être sur le chemin de l'exil? Comment assurer encore et encore et l'assumer, le choix de se dire qu'on a une place pour une famille, mais pas pour l'autre? 10 ans, c'est long. Et la tristesse est bien présente, révélatrice de notre capacité à nous indigner. Elle nous lie aussi, tout comme la force que nous connaissons d'être ensemble pour continuer.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Chaque samedi, place du ralliement à 15h, rassemblement pour exiger le cessez-le-feu à Gaza.
Le samedi 28 septembre à 13h au 400 coups, allez voir le documentaire Où tu voudras, quand tu voudras de Youn Bazin. À la maison d'accueil spécialisée des écrins dans les Hautes-Alpes résident 24 adultes atteints de handicap lourd. Ce documentaire met la lumière sur les liens uniques entre résidents et accompagnants nianteux, éducatifs et sociaux qui vivent ensemble toute l'année. La projection est suivie d'un échange avec l'équipe du film. Le tarif unique est à 5 euros.
Et le samedi 28 également, mais cette fois à la maison de quartier du Lac de Maine, il y a une formation juridique en droit des migrations, animée par une juriste experte, c'est organisé par la LDH. C'est de 10h à 12h30. Et n'oubliez pas que le 28 septembre, c'est aussi la journée mondiale pour le droit à l'avortement.
Toujours au 400 coups, avant-première le dimanche 29 septembre à 18h pour le documentaire Au boulot, en présence des réalisateurs Gilles Perret et François Ruffin. Le pitch est simple, peut-on réinsérer les riches ?
Tous concernés, hommes, femmes, enfants, marchons ou courons ensemble, le dimanche 13 octobre à Angers contre le cancer du sein. Cette manifestation est organisée par le comité féminin 49 qui agit pour la prévention et le dépistage des cancers. Le rendez-vous est fixé sur l'esplanade du Lac de Maine.
Et enfin, le 17 octobre, à l'initiative du mouvement ATD Quart-Monde, la Fédération des Centres Sociaux, la Ligue des Droits de l'Homme, le Secours Catholique vous invite à participer dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de la Misère. C'est de 17h30 à 18h30 au kiosque du Jardin du Mail à Angers. Il est presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Bernadette, Véronique et Paul pour leur venue. Merci beaucoup. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook et Instagram. Oui, trop bien. À bientôt sur les ondes de Radio G.
Au revoir.
À bientôt.
Bonne soirée.